Un jour, j'ai rencontré une dame qui m'a parlé de son expérience personnelle. Elle m'a dit qu'elle avait joint une église avec joie et qu'après un certain temps, elle s'était rendue compte que les gens de cette église-là n'étaient pas vraiment ce qu'elle pensait qu'ils étaient. Elle s'est rendue compte que un certain nombre d'entre eux mentaient, racontaient des histoires. Et puis, elle s'est rendue compte qu'il y avait des malversations d'argent. Certains avaient des comportements qui lui déplaisaient fortement. Alors, elle m'a dit, finalement, j'ai décidé de quitter cette église. Alors j'en ai profité pour lui dire directement, « Ah ben dans ce cas-là, ne venez pas dans la mienne. » Alors vous pensez bien qu'avec une réponse comme ça, j'ai eu toute son attention tout de suite. Ce qui m'a permis de lui dire, « Vous savez, la raison pour laquelle vous êtes allé dans cette église est tout aussi mauvaise que la raison pour laquelle vous en êtes sorti. Parce que dans l'église, si vous voulez avoir des histoires d'horreur, je peux vous en raconter. Vous savez, je suis dans l'église probablement depuis plus longtemps que la plupart d'entre vous. Si vous voulez que je vous raconte les misères de l'Église, je peux le faire pendant longtemps. Je pense que ce n'est pas nécessaire. Mais tant qu'il y aura des êtres humains dans l'Église, vous comprenez qu'il y aura des difficultés dans l'Église, des problèmes dans l'Église. Alors pour quelle raison est-ce qu'on est dans l'Église? Je rencontre régulièrement des gens qui me parlent et qui savent que mon père était pasteur. Ils me disent « Ah, vous au moins, vous êtes restés dans l'Église. Mes enfants, moi, ils sont partis. » Et je me demande pourquoi. Mais quand les gens me disent ça, en moi-même, je me dis, mais ils ne savent même pas pourquoi moi, je suis resté dans l'église. Et évidemment, ils ne savent même pas pourquoi leurs enfants ont quitté l'église. Ce qui veut dire que rester dans l'église ne signifie rien, à moins qu'on ait vraiment de bonnes raisons d'y être. Des raisons valables, des raisons personnelles. Dans un article qui a paru dans la revue Adventiste en anglais, en 1999, Andy Nash écrivait ceci. Trop souvent, nous considérons ceux qui restent dans l'Église comme des héros, sans nous soucier de ce qu'ils y font. Peut-être prennent-ils simplement de la place sur les bancs de l'Église, ou pire encore, ils en chassent les autres. Peut-être restent-ils pour la considération, la sécurité ou les bons potlucks. Bonne raison pour rester dans l'église? Rester dans l'église, finalement, ne signifie rien à moins qu'on ait vraiment de bonnes raisons d'y être. Certains ont de mauvaises raisons pour y être et certains ont de mauvaises raisons pour ne pas y être. Certains ont de mauvaises raisons pour être dans l'église, mais ça ne se voit pas, parce que ce sont les circonstances qui les ont mis là. En fait, ils pourraient tout aussi bien être ailleurs, et n'importe où ailleurs. Certains, par contre, sont dans l'église et ça leur a coûté cher. Ça leur a coûté cher parce qu'ils ont véritablement nagé à contre-courant. Ça leur a coûté parfois de perdre littéralement leur famille, qui ne voulaient plus entendre parler d'eux. Ça leur a coûté de perdre parfois leur travail, de perdre leurs amis, de perdre leurs relations. Ils se sont parfois retrouvés tout seuls à cause de la foi qu'ils avaient embrassée. Pour certains, être dans l'église leur a coûté très cher. La facture a été élevée et il est possible qu'ils la payent encore aujourd'hui. Mais pour d'autres, être dans l'église était la solution de facilité en fait. Parce qu'ils étaient déjà dedans. Donc être dans l'église, c'était la solution de facilité parce qu'il suffisait tout simplement de suivre le courant. C'était fort simple. Il suffisait de faire comme tout le monde et d'être dans l'église. Alors pourquoi est-ce que je suis dans l'église adventiste? Est-ce que c'est simplement parce que je n'ai pas trouvé assez de mauvaises raisons pour en sortir? Ou est-ce que c'est parce que j'ai des tonnes de bonnes raisons pour être dedans? Alors ce matin, j'aimerais vous donner mon témoignage pourquoi je suis, pourquoi je reste dans l'église adventiste. Oh, je pourrais vous donner ces tonnes de bonnes raisons. Mais permettez ce matin que je n'en partage que 7 avec vous. La première raison pour laquelle je reste et je suis dans l'église adventiste, c'est que c'est une église qui a placé Jésus-Christ au centre de sa foi. Jésus, c'est le Créateur. Jésus, c'est celui qui me sauve. Jésus, c'est celui par qui je peux prier le Père. Jésus, c'est celui par qui j'ai l'assurance de la résurrection. Jésus, c'est celui qui m'a dit « Je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Jésus, c'est le maître de tous ceux qui veulent être ses disciples. Et je suis content d'être dans une église qui a mis Jésus au centre de sa foi, au centre de ses préoccupations. D'ailleurs, il est difficile de lire la parole de Dieu de la Genèse à l'Apocalypse et de voir les choses autrement. Permettez qu'on lise simplement deux textes là-dessus. Ouvrez vos Bibles, voulez-vous, avec moi dans l'Épître de Paul aux Philippiens. Philippiens, chapitre 2. Épître de Paul aux Philippiens, chapitre 2. J'aimerais lire les versets 9 et 10. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, en parlant de Jésus, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. C'est un de ces passages qui place Jésus au centre et rien d'autre, Jésus seul au centre. Permettez que nous en lisions un autre dans l'Épître aux Romains, reculé de quelques pages dans l'Épître aux Romains au chapitre 11. J'aimerais lire le verset 36. Épître aux Romains, chapitre 11, verset 36, dit ceci. En parlant de Jésus, il est dit, « C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. » Je suis heureux d'être dans une église qui a donné à Jésus sa place et qui n'a rien mis d'autre à sa place. Un auteur adventiste écrit dans le livre « Vers Jésus » les quelques phrases que j'aimerais partager avec vous. C'est en vain que l'humanité rêve de progrès, en vain qu'elle travaille à son relèvement si elle néglige cette source unique d'espérance et de salut qui lui est offerte. Il n'y a pas, hors de Jésus, de véritable excellence de caractère. Il est le seul chemin qui mène à Dieu. « Je suis le chemin, la vérité et la vie, dit-il. » Nul ne vient au Père que par moi. Jésus au centre de la vie chrétienne. Il est précisément ce pilier central sur lequel repose notre foi. Et je suis heureux d'appartenir à une église qui donne à Jésus sa place, la seule qu'il peut avoir. La deuxième raison pour laquelle je reste dans l'église adventiste, c'est que cette église pratique une religion. Vous savez que le mot « religion » a sa racine dans le mot « relier ». Et c'est effectivement l'objectif de ma foi chrétienne. De relier l'homme à Dieu, ou Dieu avec les hommes. Et de permettre qu'il y ait entre chacun des disciples de Jésus et leur maître un contact personnel. Dans son livre « Salvation by Faith and Your Will », Maurice Venden écrivait ceci. Jésus nous a enseigné un secret, c'est que la communion avec Dieu chaque jour nous donne la force de dépasser les problèmes et les soucis. Mais comment communier avec Jésus puisqu'il n'est pas là? Par du temps consacré à la réflexion, à l'étude de la Bible, à la prière, où l'on parle avec Dieu et où on l'écoute nous parler. Essentiel, une religion qui me relie à Dieu directement. Et sans intermédiaire, sans l'intermédiaire de toutes sortes de hiérarchies ou de dogmes ou de traditions. Un contact direct tel que la Bible me le propose. Par exemple, dans l'Épître aux Éphésiens. Épître aux Éphésiens, au chapitre 2, se trouve un de ces passages qui nous rappelle ce lien qui nous rapproche avec Dieu. Épître aux Éphésiens, chapitre 2. Le verset 13 dit ceci. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Et un peu plus bas, au verset 17, il est dit « Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. » L'Église à laquelle j'appartiens nous invite à vivre une religion, c'est-à-dire ce qui va me relier directement à Dieu. Et je me souviens, dans l'évangile de Marc, au chapitre 1er, il est raconté que Jésus, très tôt le matin, avant même le lever du soleil, se mettait à l'écart dans un lieu tranquille où il priait. Alors je comprends que si Jésus avait besoin de ça, à combien plus forte raison, moi, être humain, pécheur, en ai-je aussi besoin pour conserver ce lien intime et profond avec mon maître, avec mon sauveur. Cette religion-là, qui me relie directement à Dieu, c'est l'anti-secte. Parce que les sectes se définissent, comme vous le savez très bien, par quelqu'un qui prend véritablement la place de Dieu, le directeur de conscience, qui se met comme intermédiaire entre Dieu et les croyants, et qui dirige tout le monde. Quelqu'un qui prend un peu la place de Dieu, et qui reçoit aussi les hommages qui seraient dus à Dieu. La vraie religion, c'est précisément une démarche anti-secte qui me relie directement à Dieu et me fait bénéficier de l'expérience des autres qui vivent cette expérience-là. Je suis heureux d'appartenir à une église qui m'encourage à développer avec Dieu un lien suivi, continu, par les outils que Dieu m'a donnés, l'étude de la parole, la prière, la méditation, le contact avec les frères et sœurs, le service. Je suis heureux d'appartenir à une église qui m'invite à développer avec Dieu un contact personnel. La troisième raison pour laquelle je suis dans l'église adventiste, c'est que son histoire repose sur une étude approfondie de la révélation de la parole de Dieu. L'église adventiste est née de la volonté d'hommes, de femmes et de jeunes de savoir clairement pour eux-mêmes ce que la Bible enseigne. Ces gens avaient entendu toutes sortes de choses. Ils avaient même suivi des leaders baptistes qui leur avaient annoncé la venue de Jésus à une date précise. Mais eux voulaient savoir ce que les Écritures enseignent. Alors ils se sont mis au travail. Ils se sont mis au travail avec leur Bible et leur concordance. C'était un travail ardu, mais qui leur permettait de fonder leur foi, non pas sur des traditions, non pas sur des habitudes, non pas sur des idées reçues, mais sur une étude personnelle des Écritures. Ellen White, dans un livre « Early Years », à la page 144, décrit brièvement ce qui se passait lorsqu'ils se mettaient au travail pour étudier. « Nous avons étudié et prié avec ardeur. Souvent, nous restions à l'étude ensemble jusque tard dans la nuit, et parfois nous passions la nuit entière à étudier la parole et à prier pour être éclairés. Constamment, les frères se retrouvaient pour étudier la Bible et pour en comprendre vraiment le sens et être capables de l'enseigner aux autres avec puissance. Quand ils en arrivaient au point où ils disaient « Nous ne pouvons aller plus loin », l'Esprit du Seigneur m'accordait une vision et une explication claire du passage concerné m'était donnée ainsi que des indications pour l'enseigner efficacement. Je suis heureux d'être dans une église qui a fondé sa croyance, non pas sur des traditions, mais sur l'enseignement de la parole de Dieu, sur une étude des Écritures. L'étude de la révélation et de la prophétie. Et je suis heureux de découvrir que le don de prophétie ne s'est pas substitué à l'étude de la parole. Il a été là pour le confirmer, pour l'encourager, pour l'aider à aller de l'avant. Je suis heureux d'appartenir à une église qui peut dire qu'elle est fondée sur la vérité des Écritures. Et se placer de cette manière-là dans la directe ligne de ce qu'était la réforme du XVIe siècle. Cette réforme qui se disait être basé sur sola scriptura, et pas seulement l'écriture seule, mais tota scriptura, c'est-à-dire l'écriture dans sa totalité, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Sola Scriptura, c'est là véritablement la base sur laquelle je peux appuyer ma foi. La quatrième raison pour laquelle je suis dans l'église adventiste, c'est que cette église n'enseigne pas simplement une doctrine, elle enseigne aussi un mode de vie. Ce n'est pas une église qui a seulement de belles idées, de belles théories, c'est une église qui m'invite non seulement à appuyer ma foi sur ce que disent les Écritures, mais aussi à changer mon mode de vie. Ce n'est pas simplement une église qui a un credo, ou des croyances, ou des doctrines. C'est une église qui m'invite à modifier ma vie en fonction de ce que je crois. Autrement dit, qui m'invite à être conséquent dans ma vie chrétienne. Ainsi, ma relation avec Christ, ce lien personnel dont on parlait il y a un instant, me pousse à vivre autrement. Vous savez, c'est un peu comme quand on aime quelqu'un. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour celui ou celle qu'on aime ? Souvenez-vous, mes amis, de votre jeunesse, et vous vous souviendrez de tout ce que vous avez fait pour celle pour qui votre cœur battait plus fort, ou celui dont vous rêviez la nuit, n'est-ce pas ? Qu'est-ce qu'on ne ferait pas ? Mais mes amis, qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour celui qui a tout fait pour nous jusqu'à donner sa vie sur la croix ? Qu'est-ce qu'on ne ferait pas ? L'amour du Christ nous presse, écrit l'apôtre Paul. Alors, quand je vois ce que le Christ a fait pour moi, je comprends qu'il m'invite à vivre autrement pour lui ressembler. Et c'est ainsi que je recherche un mode de vie où je peux avoir pas simplement la santé du corps, mais la santé de mon esprit. Je recherche aussi la santé dans mon couple. Je recherche la santé dans ma vie familiale. Je recherche la santé dans les affaires, parce que tout d'un coup, les affaires que je gère n'ont plus comme seul objectif de gagner de l'argent. Il y a beaucoup plus que ça. Santé dans mes affaires. Santé dans mon corps. Santé dans mes relations avec les autres. Je recherche aussi la santé en évitant toutes les dépendances, qu'elles soient chimiques, alimentaires ou psychologiques, plus subtiles encore. Je cherche une santé globale et je suis heureux d'appartenir à une église qui me rappelle que je suis le temple du Saint-Esprit. Alors je ne peux pas faire n'importe quoi avec ça. Je me souviens avoir rencontré une dame qui un jour est tombé sur ce texte-là, ce texte de l'Épître aux Corinthiens qui dit « Notre corps est le temple du Saint-Esprit ». Et cette personne fumait beaucoup. Et elle m'a raconté des années plus tard sa réflexion et disait « Mais enfin, si le Saint-Esprit est en moi et que je suis son temple, mais il est emboucané en permanence, je ne peux pas faire ça ». Elle s'est dit « Mais le pauvre, je ne peux pas lui faire ce coup-là ». Alors elle a décidé d'arrêter de fumer tout de suite, pour qu'enfin le Saint-Esprit puisse respirer. Bonne idée. Bonne idée. Je suis heureux d'appartenir à une église qui, de cette manière-là, me donne une raison d'être. Parce que cette église répond à mes questions fondamentales. D'où je viens et où je vais. C'est pour cela que je suis invité à avoir tous les moyens dont je dispose pour remplir cette mission qui est la mienne. Je sais d'où je viens, et je sais que Dieu a créé les êtres humains comme ses enfants, il y a environ 6000 ans, dans une création de 6 jours littéraux, et je sais qu'il prépare pour ses enfants une vie qui dépasse largement celle que nous avons ici-bas. D'ailleurs, dans l'évangile de Matthieu, les dernières paroles de cet évangile me donne à moi aujourd'hui mon ordre de marche. Vous connaissez ce passage, vous pourriez le réciter par cœur. Les dernières paroles de l'évangile de Matthieu au chapitre 28 et au verset 19 disent ceci. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Vous avez remarqué, Jésus ici pousse ses disciples à leur enseigner pas seulement des doctrines ou des dogmes, il invite ses disciples à leur enseigner à observer tout ce que je vous ai prescrit. Il invite ses disciples à faire des disciples qui vivent une vie de disciples, à vivre une vie transformée, un nouveau mode de vie du disciple de Jésus qui sait d'où il vient et qui sait où il va. Je suis heureux d'être dans une église qui m'a rappelé cet enseignement des Écritures et qui m'a donné un sens à ma vie aujourd'hui. La cinquième raison pour laquelle je suis dans l'église adventiste, c'est qu'il s'agit là d'une famille mondiale. J'ai voyagé sur 4 continents et j'ai trouvé partout des frères et sœurs, des jeunes qui avaient la même foi que moi, le même objectif que moi, la même conviction que moi, cette même foi basée sur les Écritures. Une famille mondiale. Et c'est vrai que parfois, on n'a pas toujours la même langue, mais partout où je suis allé, partout, j'ai rencontré des gens avec qui j'avais des amis communs, partout dans le monde. C'est pas difficile. Vous pouvez aller aujourd'hui, jour de sabbat, dans une église en Suède. Vous pouvez aller dans une église au Japon. Vous pouvez aller dans une église adventiste en Inde, ou en Argentine, ou au Chili. Vous pouvez même aller dans une église adventiste au Québec, si vous voulez. Et si vous ne manquez pas le moment essentiel de cette journée de sabbat, qui est l'école du sabbat, où tous les membres sont présents dans la salle de culte, si vous ne manquez pas ce moment essentiel pour tout le monde, alors vous découvrirez que dans toutes ces églises de par le monde, vous allez étudier la même leçon d'école du sabbat, le même sujet de réflexion, la même recherche dans la parole de Dieu. Une famille globale, une famille qui fait le tour du monde. Et lorsque j'ai travaillé comme missionnaire dans des territoires d'outre-mer, le salaire que je recevais, l'argent dont j'avais besoin pour travailler, venait de vos dîmes et de vos offrandes. Parce que chaque sabbat, quand vous apportez vos dîmes et vos offrandes, une partie de cet argent est utilisée dans le monde entier pour le développement de l'Église et la proclamation du message adventiste. Je vivais dans un pays où les membres et les frères et sœurs de l'Église étaient trop peu nombreux pour soutenir le travail qui était accompli. Qui l'a soutenu ? Le reste des frères et sœurs de l'Église, par leurs dîmes et leurs offrandes fidèles chaque sabbat. C'est une famille mondiale. Jésus parle de cette unité de l'Église dans ce fameux texte que vous connaissez dans l'évangile de Jean au chapitre 17. J'aimerais regarder ces versets avec vous. Évangile selon Jean, chapitre 17, verset 20, dit ceci. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Cette unité de l'Église, elle est fantastique malgré les langues, malgré la diversité culturelle, et je suis particulièrement heureux d'appartenir à une famille qui fait le tour du monde, et qui sait exactement où elle va parce que les Écritures le lui ont dit. La sixième raison pour laquelle je suis dans l'Église, c'est que l'Église adventiste vit un signe particulier d'une alliance particulière avec Dieu. L'Église à laquelle j'appartiens vit ce signe d'une façon spéciale. Et c'est une entreprise courageuse, parce que c'est une entreprise qui l'amène à remonter le courant des traditions et des habitudes, même au sein de la chrétienté d'aujourd'hui. C'est une démarche courageuse que de recevoir les 10 commandements et de vouloir, par la grâce de Dieu, les observer, les 10. Et en particulier le 4e. Parce que dans le livre de l'Exode, au chapitre 31, je découvre quelque chose de spécial à propos de ce commandement. Regardez dans le livre de l'Exode, au chapitre 31, ce qui est écrit à propos du 4e commandement. Dans le livre de l'Exode, au chapitre 31, au verset 13, il est écrit ceci. « Vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, car ce sera entre moi et vous, et parmi vos descendants, un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. » Et un peu plus loin, au verset 17, « Ce sera entre moi et les enfants d'Israël un signe qui devra durer à perpétuité, car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre, et le 7e jour, il a cessé son œuvre et il s'est reposé. » Le sabbat est présenté dans ce texte comme le signe de cette relation de foi avec Dieu par laquelle je suis transformé par lui. C'est l'Éternel qui vous sanctifie. Ce n'est pas par mes œuvres, ce n'est pas en serrant les dents que je vais être transformé, c'est en me mettant à la disposition de Dieu qui va faire le travail en moi. J'ai besoin d'accepter ce commandement que Dieu me donne parce qu'il m'indique que je peux travailler à en perdre ma vie. Ce n'est pas ça qui va me sauver. Il me propose de me reposer en lui parce que lui a fait tout ce qu'il fallait pour que je sois sauvé. Le sabbat devient donc le signe même du salut par la foi en Jésus. C'est un signe particulier, le signe d'une alliance spéciale dont il est déjà question dans l'Ancien Testament, dans Ésaïe chapitre 56, pour ces étrangers qui veulent garder le sabbat, qui veulent garder mon alliance. Alors je suis heureux d'appartenir à une église qui m'a appris à me reposer sur Jésus, à compter sur lui, à mettre toute ma confiance dans ce qu'il a fait pour que je puisse être sauvé, plutôt que de mettre confiance en moi-même et dans tout ce que je peux faire pour imaginer gagner des bons points auprès du Seigneur. Je suis heureux d'appartenir à cette Église qui garde les commandements de Dieu et la foi de Jésus. La 7e raison pour laquelle je suis dans l'Église, c'est que le message de cette Église reflète le message biblique pour maintenant et pour l'avenir. L'Église ne donne pas simplement une recette pour vivre heureux maintenant. Et si elle le fait, ce n'est jamais qu'une partie du message, parce qu'il y a aussi une recette à long terme. Elle reflète l'enseignement des Écritures. Regardez dans la première épître de Jean, ce qui est écrit au chapitre 5. Première épître de Jean, chapitre 5, un verset extrêmement fort, quand on y pense, un texte puissant, écrit par l'apôtre Jean, dans sa première épître au chapitre 5, au verset 13, il dit ceci. « Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » Jean ne dit pas « vous aurez la vie éternelle une fois ». Jean écrit « je veux que vous sachiez que la vie éternelle, vous l'avez maintenant » à condition que vous ayez accepté Jésus comme votre sauveur. Et s'il faut faire un petit dodo entre-temps, ce n'est pas grave, parce que la vie éternelle, vous l'avez reçue maintenant, la mort n'étant qu'un sommeil. Un peu plus tôt, dans cette même épître au chapitre 3, première épître de Jean, chapitre 3, dès le premier verset, il est écrit ceci. 1 Jean chapitre 3, verset 1er, « Voyez quel amour Dieu nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. » Jean est en train de dire, « Mes amis, réjouissez-vous de ce que vous êtes considérés aujourd'hui par Dieu comme ses enfants, chacun d'entre vous. » Mais ce n'est pas fini. Parce qu'il a un plan pour vous, un plan pour l'avenir, et ce que vous êtes aujourd'hui, rendez grâce à Dieu, n'est pas ce que vous serez demain. Le Seigneur n'a pas fini encore avec aucun d'entre nous, parce qu'il a encore du travail à faire, et parce que son objectif est de nous amener où, le texte de tout à l'heure le disait, la vie éternelle. Dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 24, il est écrit ceci. « Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. » Toutes les tribus de la terre se lamenteront. Elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des 4 vents d'une extrémité des cieux à l'autre. Le retour de Jésus. Mais je lis encore dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 21. Apocalypse chapitre 21. À partir du verset 1er, je ne résiste pas à la tentation de vous lire ce passage. Apocalypse chapitre 21, verset 1er. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une voix forte qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Et celui qui était assis sur le trône dit « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Je suis heureux d'appartenir à une église qui m'a enseigné ce que la parole de Dieu dit, c'est que Jésus revient bientôt et qu'il a un plan pour moi aujourd'hui, mais qu'il a un plan aussi pour l'éternité. Je suis heureux d'appartenir à une église qui a su me communiquer la bienheureuse espérance. Et s'il vous plaît, ne pensez pas un seul instant que ce matin, j'ai fait un spot publicitaire. L'église n'est pas un club pour lequel on recrute et qui a besoin de publicité. J'ai simplement donné mon témoignage succinctement pour dire pourquoi je suis dans l'église aujourd'hui. Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles on est dans l'église. Et j'aimerais vous inviter ce matin à regarder dans votre cœur pour savoir pour quelles raisons vous êtes dans l'église. Qu'est-ce qui vous y a amené? Qu'est-ce qui vous y a gardé? De bonnes ou de mauvaises raisons? Alors, pour quelles raisons êtes-vous dans l'église? Et pour quelles raisons n'y êtes-vous pas? Amen.